m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. La Tour Eiffel de l'Afrique, c'est le surnom que sa manageuse a donné à l'artiste que nous recevons aujourd'hui, tant il est mitraillé par ses fans quand il pointe ses dreadlocks dans les rues africaines. Tikenja Fakoly fête cette année ses 25 ans de carrière et autant d'engagement au service du reggae, sa musique, mais aussi instrument de ses combats pour la paix, l'unité, le respect et la dignité de l'Afrique et des Africains. Lauréat du prix RFI Découverte en l'an 2000, c'est toujours un plaisir de l'accueillir dans nos studios. Il est l'invité exceptionnel de RFI aujourd'hui pour nous présenter son 11e et nouvel album. Il s'appelle Le Monde est chaud, il sort demain chez Barclay et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Tikenja Fakoly.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Ça faisait 20 ans, hein, 20 ans que vous n'aviez pas enregistré d'album en Côte d'Ivoire. On se souvient que vous avez dû vous exiler au Mali pour des raisons de sécurité, puisque des menaces de mort pesaient sur vous. C'est donc chose faite avec ce disque, puisque vous l'avez enregistré donc à Abidjan, dans cette espèce d'ambassade du reggae que vous avez monté dans le quartier de Yopougon. Est-ce que cet album, ça signifie que c'est un nouveau départ?
Cet album, c'est un retour aux sources. Vous avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que j'ai pas enregistré en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, j'ai décidé de faire un retour aux sources parce que j'avais, depuis un moment, je recevais des critiques de certains fans qui disaient, Tikken, quand est-ce que tu reviens avec le son d'avant? Et moi, j'étais pas dans l'erreur du tout, puisque moi, mon objectif avec les autres enregistrements que j'ai fait, c'était d'aller chercher un public qui n'écoute pas d'habitude du reggae. Et comme pour moi, le message est très important, je voulais que ce public-là ait accès à mon message. Et donc, une fois que, voilà, ça s'est fait, voilà, je peux revenir à mon ancien rythme, et puis je suis sûr qu'ils vont consommer. Donc, c'est vraiment un album de retour aux sources.
Donc, retour aux sources chez vous, retour aux sources musicales aussi. Ça veut dire que l'idée, déjà, en réalisant cet album avec Akache, hein, le beatmaker ivoirien qui a travaillé avec vous, l'idée, c'était de retrouver le son du début.
C'était ça.
Alors, c'est quoi le son, précisément, de Tikenja Fakoly?
Vous savez, il y a quelque chose de spécial dans le reggae africain. Je ne sais pas si c'est la rapidité du son, mais il y a une vibration assez spéciale. D'ailleurs, qu'on retrouve dans les albums que j'ai fait avant, donc Coup d'Histoire, Magicratie, etc. Donc ce son là que je voulais absolument retrouver.
Mais il y a un son Tikenja Fakoly, il y a un son du reggae ivoirien.
Ouais, je pense qu'il y a un son Tikenja Fakoly. Le son Tikenja Fakoly, c'est le son reggae avec des instruments traditionnels. Je crois que j'ai été l'un des premiers à le faire, et puis que je continue, voilà, parce que j'ai toujours dit que on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains, mais on peut prouver que les Jamaïcains, en étant comme ils ont été arrachés à l'Afrique, quand ils partaient, ils sont partis avec le reggae dans le sac, et c'est en Jamaïque qu'ils l'ont ouvert. Parce que si la kora marche bien avec Get Up, Stand Up de Bob Marley, si les morceaux de Max Romeo, qui sont des anciens, hein, si on arrive à jouer du balafon sur ces sons-là et que ça marche bien, ça veut dire que quelque part, l'inspiration première, en tout cas du reggae, vient de l'Afrique.
Oui, c'est ce que disait Bob Marley d'ailleurs. Le reggae a beau être né en Jamaïque, il reviendra à sa source en Afrique. C'est précisément ce que vous avez fait avec quelques autres, avec Alpha Blondy aussi.
Ah oui, je pense que c'est cette prophétie aujourd'hui qui se concrétise en Afrique. Et Bob Marley a dit dans cette interview, il a dit « quand le reggae sera la source, le reggae prendra sa vraie place ». Aujourd'hui, si vous cherchez un reggae avec un message fort, avec un message d'éveil de conscience, un message en tout cas qui accomplit la vraie mission du reggae, alors il faut aller en Afrique. Si vous allez en Jamaïque, vous allez vous tromper parce que vous allez trouver des sons reggae, des clips où les filles dansent au bord de la piscine. Il n'y a pas vraiment, il n'y a plus de message très militant dans le reggae jamaïcain. Et donc, voilà, c'est cette prophétie de Bob Marley qui s'est concrétisée aujourd'hui. Quand vous allez au Burkina Faso aujourd'hui, les jeunes gens, ils ont un message très fort dans leur reggae. En Guinée, c'est la même chose partout. Les jeunes font du reggae aujourd'hui sur le continent. C'est un reggae avec un message fort.
Alors, il y a la patte reggae, il y a la patte africaine et la patte Tikenja Fakoli. La patte akatché, c'est laquelle?
La patte akatché, c'est la patte de l'énergie de jeunesse qu'il a apportée. Hein. Parce qu'akatché, je crois qu'il a 30 ans. Et je pense que c'est cette patte-là qu'il a apporté à cet album. Quand les gens vont l'écouter, ils vont trouver que vraiment c'est le Tikenja d'avant, mais mieux produit. Mieux produit parce qu'il y a eu un certain Akatché qui a su où mettre les instruments à la place qu'il faut.
Alors un album qui s'appelle Le Monde est chaud, c'est d'ailleurs le titre d'ouverture, un featuring avec le rappeur marseillais Soprano.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le calcul politique, je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute en suivant leurs ordres. Leur priorité c'est leur confort. Voilà pourquoi
le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Je respire la fumée. Je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. C'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est leur paradis fiscal.
Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Le monde est chaud, le nouvel album de notre invité exceptionnel Tikenja Fakoli, aujourd'hui sur RFI dans VMDN. Un album qui commence donc par cet appel à une vraie prise de conscience écologique et qui se termine d'ailleurs par un autre single qui s'intitule tout simplement Écologie. Alors on l'a compris, hein, Tiken, c'est un titre inquiet pour l'avenir de la planète, mais il n'y a pas que de l'inquiétude, il y a quand même aussi beaucoup de colère contre l'inaction des politiques, contre ce que vous appelez ces Pinocchio pathétiques. Ouais. Qu'est-ce que vous visez?
Ben moi je vise les décideurs de ce monde. Hein. Je dis que voilà, ça sert à rien de faire de grandes réunions à Paris, de grandes réunions à Marrakech, de grandes réunions, parler du climat, parler des dispositions qu'on va prendre, et puis que y a pas d'action derrière.
Que des mots.
Et la grande inquiétude vient d'un pays moteur du monde, les États-Unis. Quand le président des États-Unis dit qu'il ne croit pas au réchauffement climatique, ben on a un problème. Donc voilà, pour moi c'est important de tirer la sonnette d'alarme, de parler en tout cas, d'attirer encore l'attention de ces décideurs-là.
Donc mais Pinocchio aussi, c'est Donald Trump.
Ouais, on va dire que Donald Trump fait partie de Pinocchio, ouais. Et je pense que le but aussi c'est de sensibiliser hein, les citoyens du monde, que chacun à son niveau fasse un petit geste.
Y compris les citoyens africains?
Ah oui, les citoyens africains, oui. Parce que tout le monde, même si l'Afrique est victime de ce réchauffement climatique, mais nous avons le devoir de jouer notre rôle. En sachant comment, où est-ce qu'il faut mettre les sachets plastiques, etc. Parce que quand vous rentrez dans des villes comme Bamako, vous sortez de l'aéroport, À gauche, c'est un tas de sachets plastiques. À droite, c'est un tas de, tu vois, c'est très, très grave. Et donc, moi, j'essaie d'attirer l'attention des citoyens, dire que chacun peut contribuer à arranger les choses. Si on aime nos enfants, nos petits-enfants, il est important qu'on se pose des questions à savoir dans quel monde ils vont vivre.
Donc là, c'est vraiment dans les gestes quotidiens hein, ouais. que chacun peut effectivement apporter sa pierre à l'édifice. Mmh. Est-ce que votre appel il s'adresse aussi aux chefs d'État africains? Parce que qu'est-ce que vous répondez, Tikenja Fakoly, à ceux qui disent, bah, écoutez, c'est aux pays riches de faire des efforts, c'est eux qui finalement ont mis le monde dans cette situation. La priorité pour l'Afrique, c'est pas l'écologie, c'est d'abord le développement.
Ben, je pense qu'ils ont raison parce que l'Afrique est victime hein, de cette situation, parce que les pays dits développés, du pays développé aujourd'hui, se sont développés grâce aux usines qui polluent, etc. Grâce à tout ça, et donc aujourd'hui, pour que l'Afrique se développe, l'Afrique prendra forcément exemple sur la manière dont ces pays-là se sont développés. Et il se trouve que ce problème-là se pose à nous aujourd'hui. Mais cette injustice ne doit pas empêcher les Africains de poser des actes très forts. Hein, parce que voilà, on peut jouer notre rôle pour que la situation s'améliore, mais tout en dénonçant ces injustices-là.
Est-ce que le développement est l'ennemi de l'écologie, Tikenja Fakoly?
Je pense que on peut trouver des manières hein, de développer l'Afrique sans forcément construire des usines, etc. Je pense que on peut aujourd'hui même à travers des gestes écologique, c'est-à-dire à travers des trucs qu'on peut essayer d'aller au développement sans passer par les manières des pays occidentaux.
Alors, vous aviez déjà collaboré avec Soprano, hein, qu'on a entendu avec vous sur Le Monde est chaud. Vous aviez, il y a eu cette chanson hein, en 2007, Ouvrez les frontières sur le sort des migrants. Et puis, on vous retrouve aussi sur son dernier album dans l'introduction d'un morceau qui s'appelle Rampampan.
La politique peut se transformer en armement. Elle peut aussi se finir en bombardement. Pourquoi la guerre partout dans ce monde? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre?
La jeunesse a des valeurs complètement brouillées. Ils peuvent te prendre la vie avant d'aller prier. Aux USA, les armes sont torées en jouet. Là-bas, le Père Noël s'appelle le Trump.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Où va le monde, dis-moi, où va l'humanité? L'histoire se répète comme un disque rayé. Mais faut-il vraiment la guerre pour la paix? Pour le pétrole en Europe, ça fait un pam pam pam. Et toujours les mêmes innocents sur le macadam. Dame dans nos quartiers pour la drogue, ça fait ram pam pam pam. Et toujours les larmes de daronne sur le macadam. Dame en Afrique pour le pouvoir, ça fait ram pam pam pam. Et toujours les mêmes innocents sur le macadam. Dame, mais quand il s'agit d'éducation, de malnutrition ou de famille diverse, sous les ponts, y'a pas de ram pam pam pam.
Ouais, il se fait rendre ma part, Tikenja Fakoly. C'est le premier morceau reggae écrit par Soprano. Il se débrouille bien, le petit?
Ah oui, Soprano, il est tout terrain, comme on dit.
Vous lui avez donné quelques conseils justement pour chanter reggae et pour écrire?
Non, pas du tout. À chaque fois que voilà, on a eu besoin qu'il vienne chanter, il est venu avec son inspiration et puis il a chanté. Voilà, c'est cool parce que on m'a dit tout à l'heure que nos voix vont très bien ensemble.
Eh ben, je vous confirme effectivement. Est-ce qu'il y a une fraternité ou un cousinage entre le rap et le reggae?
Ah oui, quand il s'agit du message, je pense qu'il y a des rappeurs qui ont des messages très très forts, hein, voilà, qui sensibilisent, qui éveillent les consciences. Ouais, ce rap là, il est très très proche du reggae.
Et puis il y a Gaël Faye aussi, hein, rappeur et écrivain aussi, qui a participé également à cet album.
Effectivement, quand il y a un message fort, voilà, c'est carrément voilà, ça rentre dans le même combat que le reggae.
Oui, donc deux musiques conscientes effectivement. Comment est-ce qu'elle est née votre conscience politique, Tikenja Fakoly? Il y a eu un moment clé, il y a une forme de déclic de l'engagement?
Ah oui, c'est en 2015 en Côte d'Ivoire, lorsque la bataille pour la succession d'Oufouet-Boigny a commencé, et que j'ai vu comment les politiques étaient en train de manipuler la constitution pour empêcher des adversaires de se présenter contre eux. Et donc voilà, c'est ça qui a attiré mon attention. Et je me souviens un soir, la population s'est levée parce que s'est levée pour aller brûler la préfecture parce que les urnes étaient arrivées. Et comme la population voulait boycotter les élections, elle ne voulait pas que le pouvoir en place vienne remplir les urnes à leur nom. Et donc, moi, j'étais là ce soir, j'ai vu la préfecture en flammes, et donc, c'est après cette période-là que j'ai commencé à lire les journaux, et j'ai commencé surtout à m'intéresser à l'actualité sociopolitique de mon pays, et je pense que c'est de là que c'est parti.
Mais vous étiez déjà pétri d'idées politiques, en particulier par rapport à l'Afrique. La mort de Sankara, par exemple, ça a été un moment important aussi pour vous dans votre formation personnelle et dans votre idée que vous faisiez du continent.
Mais j'avoue que au moment où Sankara a été tué, moi, c'était en 84, et on était dans les trucs de coup d'État. On attendait qu'il y avait coup d'État, mais on savait pas qui était derrière les coups d'État. Pourquoi il y avait les coups d'État? Moi, j'avais pas en tout cas conscience de ça en ce moment, et donc c'est après que j'ai compris que Sankara a été assassiné parce que il fallait pas qu'il contamine les autres chefs d'État, parce que c'était un nouveau discours. Sankara, un président africain qui fait des reproches à un président français parce qu'il a reçu le président de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Voilà, c'est pour moi c'est quelque chose de tellement fort. Pour moi c'est quelque chose de proche du nom de Sékou Touré au général de Gaulle en 58. Quand Sékou Touré regarde de Gaulle assis à côté de lui, il lit son discours et il dit non. Au moment où le général de Gaulle s'attendait sûrement à ce qu'ils disent oui, pour moi, c'est des trucs qui ont été très très forts dans l'histoire.
Voilà, l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. En tout cas, depuis, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous, Tikenja Fakoli, vous ne vous êtes jamais caché derrière votre petit doigt quand vous aviez des choses à dire. Eh bien, vous l'avez toujours dit, comme nous le rappelle Morgan Moy.
On a vu toutes les autres crassies. Maintenant, on veut la manger crassie ou rien.
Grande voix, mais aussi grande gueule, on retient le nom de Tikenja Fakoli, tant pour sa musique que ses prises de position, à la fois figure du reggae et grand défenseur d'une Afrique indépendante. Avec Manger Crassi, il nous parle d'un pouvoir qui permet à tous de manger, d'être jugé et d'être soigné dans l'égalité. Et cette Afrique, lui, il l'imagine, il la chante unie, il rêve de l'union africaine, et même si ses premiers pas se font en Côte d'Ivoire, Tikenja Fakoli n'hésite pas à s'impliquer dans les crises politiques, touchant par exemple le Sénégal, où il demande en 2007 la démission du président Abdoulaye Wade, ou encore en Guinée, en appelant à la paix lors de l'élection présidentielle de 2010. Que ce soit dans ses chansons ou lors d'interviews, il critique directement les pouvoirs en place, notamment la corruption des politiques. Ce qui lui vaut d'ailleurs plusieurs fois d'être interdit de territoire, en particulier dans son pays natal. L'un de ses principaux combats, c'est l'annulation de la dette. Il participe en 2003 à l'album Drop the Debt, soit Annulons la dette, réunissant une dizaine d'artistes africains. Ils veulent porter la voix du continent sur le devant de la scène mondiale. Tikenja Fakoli, lui, chante Baba. Baba ni Congo, Baba ni Congo, Baba ni Congo, Baba ni Congo. Mais son engagement, il se fait aussi auprès des jeunes. Le reggaeman participe au programme Un concert, une école, permettant la création de nombreux établissements en Côte d'Ivoire et au Mali. Il ne cesse de le dire, mettons nos enfants à l'école parce que l'école éveille les consciences. Des idées que l'on retrouve dans son album African Revolution en 2010, où il appelle à une Young People Revolution, Intelligent Revolution, sur des notes mêlant musique reggae et afro. Young people revolution, intelligent revolution, must be African education. Au-delà de l'Afrique, il voyage en France, qu'il accueille à bras ouverts dès ses premiers albums et lui décerne une victoire de la musique en 2003, mais aussi aux États-Unis dont il rêvait, et surtout en Jamaïque, terre du reggae. Ce pays, c'est pour lui une petite Afrique, et c'est là-bas qu'il enregistre plusieurs de ses albums, à Kingston, dans le studio du légendaire Bob Marley, dont il reprend Get Up, Stand Up dans son album Racine. Stand up. Get up, stand up. Avec Le Monde est chaud, on peut dire que Tiken Jah Fakoly a réussi à faire ce que Bob Marley souhaitait, ancrer le reggae à l'Afrique.
Et c'est aussi dans cette optique-là, Tiken Jah Fakoly, que vous avez ouvert récemment cette bibliothèque à Yopougon. L'idée, c'est ça, c'est d'ancrer le reggae en Afrique, comme le disait Morgan.
Effectivement, c'est d'ancrer le reggae en Afrique et permettre en tout cas aux jeunes de s'informer, ceux qui veulent suivre nos traces, et aussi éclairer ceux qui voient le reggae man ou le rastaman comme des fous. Parce que vous savez que, voilà, il y a encore...
La réputation, on n'a pas toujours été très bonne. Hein.
Oui, mais il n'y a pas longtemps, il y a des forces de l'ordre zélées qui sont allées arrêter des rastas et qui les ont gardés au commissariat dans leurs locaux et ces rastas sont sortis du commissariat sans les dreads. Parce que, voilà, avec toutes les injures, quoi. Et donc, j'invite en tout cas tous ces gens à aller à la bibliothèque, à aller lire, et ils vont comprendre que le Rastaman, c'est pas un fainéant, le Rastaman, que le Rastafari, c'est une philosophie, que c'est une religion pour d'autres. Et donc, si on respecte les musulmans, on respecte les chrétiens, il faut respecter les Rastas. Parce qu'ils ont leurs croyances, et donc, voilà, il faut pas les emmerder, quoi. Donc, la bibliothèque, c'est pour ça. C'est pour donner une autre image, au reggae, voilà, que les gens aillent, en tout cas, lire pour savoir plus sur le reggae.
Alors, le reggae de Jamaïque est inscrit depuis quelques mois maintenant au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mmh. C'est un geste important au-delà du symbole?
Oui, c'est un geste important. Et je pense que on a tous appris ça, on était contents parce que on s'est dit que ça va changer quand même l'image du reggae, ça va changer l'image des faiseurs de reggae, hein. Donc, c'est une nouvelle qu'on a vraiment accueillie avec beaucoup de joie.
Bon, la prochaine étape, c'est la reconnaissance du reggae ivoirien comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Je pense qu'ils ont parlé de reggae jamaïcain parce que, évidemment, cette musique-là a été créée là-bas, mais je pense que, l'honneur revient à tous les reggae, hein, que le reggae soit chinois ou japonais, l'honneur revient à tous les reggae parce que le reggae africain a contribué à maintenir la flamme. On en parlait tout à l'heure. Vous voulez un reggae à message fort aujourd'hui, c'est en Afrique qu'il faut le trouver. Donc, c'est vrai qu'on a dit reggae jamaïcain, mais tous les reggae-man se sont sentis honorés parce que la graine a été félicitée. Et donc, voilà, les fruits aussi ont profité de cette bonne nouvelle.
Alors, Tiken Jah Fakoly, dans le livret qui accompagne ce nouvel album, vous apparaissez sur plusieurs photos avec une chemise bleue. Et sur cette chemise bleue sont brodés plusieurs symboles. Alors, en galon, là, sur les bras, il y a le drapeau jamaïcain, on est d'accord. Donc, il y a le continent africain, hein, évidemment. Et sur la poche de poitrine, là, de quoi s'agit-il exactement?
C'est le lion, c'est le symbole d'Haïlé Sélassié. Je voudrais dire aussi que le vert, jaune, rouge, beaucoup de personnes pensent que c'est la couleur de la Jamaïque. En fait,
oui.
C'est le drapeau de la Jamaïque, c'est pas forcément vert, jaune, rouge, c'est plutôt le drapeau de l'Éthiopie. Parce que les Rastas, depuis très longtemps, ont considéré Haïlé Sélassié comme un Jésus-Christ noir. Je pense que c'est des gens qui ont été esclavagisés, qui ont été piétinés, donc ils se sont retrouvés dans les îles là-bas et qui étaient considérés comme des sous-hommes. Et quand l'un d'entre eux, donc Marcus Garvey, annonce le couronnement d'Haïlé Sélassié, qui est l'un des descendants de la reine de Saba et du roi Salomon, et qui est noir comme eux, alors ils se disent tout de suite même, pourquoi aller prier Jésus qui est blanc? Alors que on a un descendant du roi Salomon dont on parle dans la Bible et qui va être couronné. Donc je pense que c'est comme ça que les Rastas se sont tournés vers Haïlé Sélassié et le lion c'est le symbole de Haïlé Sélassié.
Ils ont raison, je préfère le peuple. Certains disent que je suis un traître. Ils ont raison, je suis avec le peuple. Et d'autres pensent que je suis arrogant. Ils ont raison, le peuple est mon roi. Change de couleur,
rasta. Ils ont raison, Dja Dja est mon roi.
Direz des nouvelles sur RFI.
Gomi, nouvel extrait du nouvel album de notre invité Tiken Jafakoli, Le Monde est chaud, qui sort demain chez Barclay. Alors on parlait du lion tout à l'heure, d'Haïlé Sélassié, le lion, le roi des animaux. Là on est passé à Le Peuple et mon roi. Je préfère le peuple, je suis avec le peuple. Là, c'est ce que vous répétez dans ce titre, Ngomi. C'est vrai que vous êtes un chanteur populaire, c'est vrai aussi que vous n'avez jamais eu peur, on le disait tout à l'heure, de déplaire aux puissants. Mais est-ce que le peuple, il a forcément toujours raison?
Je ne dis pas que le peuple a toujours raison, mais je pense que le peuple a le pouvoir, mais il ne sait pas qu'il a le pouvoir. Et donc nous, notre objectif, c'est de lui faire savoir à ce peuple-là qu'en fait, c'est lui le chef. Et je pense qu'on a des exemples aujourd'hui palpables. On a l'Algérie, où le peuple est ensemble, tout le monde est ensemble. Les manifestations sont organisées, il n'y a pas de casse, et c'est très très fort.
C'est un modèle ?
C'est un modèle. Je pense que c'est un modèle. S'ils réussissent leur combat, ça va être quelque chose de très bon pour l'Afrique. Il y a les Soudanais aussi qui sont sur le chemin, qui sont encore dans ce même style de combat aujourd'hui. Démontrer que c'est le peuple qui a le pouvoir. Parce que les dirigeants dans nos pays sont combien ? Quand vous allez dans un pays de 20 millions d'habitants, alors il y a 200 ou bien 500 personnes qui sont au pouvoir. Et donc, et les 19 millions 500, ils suivent comme des moutons finalement. Et donc, si les 19 millions de personnes disent non, logiquement, ils doivent pouvoir faire trembler les 500 personnes. Donc, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et moi, avec le reggae, j'ai décidé d'être avec le peuple comme Bob Marley l'a commencé. Et donc, moi, je continue. Et Ngomi, c'est une galette chez moi. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, on appelle cette galette la Ngomi. Et dans le sud, on l'appelle Nyomi. Au Mali, c'est Ngomi. C'est une galette dont les deux côtés sont grillés. Ceux qui étaient au pouvoir hier, qui se sentaient un peu menacés par mon message, pensaient que j'étais contre eux. Et ceux qui étaient dans l'opposition pensaient que j'étais avec eux. Et ceux qui étaient dans l'opposition sont au pouvoir aujourd'hui. Ils ont vu que j'ai continué mon combat. Donc, je continue à être grillé parce que je fais moins de concerts. Les sponsors s'auto-censurent parce qu'ils ont peur des dirigeants.
Il y en a qui vous ont lâché ou qui ne sont pas venus vers vous?
Non, je pense que nous on est allé vers des sponsors pour organiser des concerts et très souvent les réponses c'est non. Mais on sait qu'il y a de l'autocensure parce que tout le monde a peur, parce que Tiken Dja a chanté quelque chose que le pouvoir n'a pas aimé, ou bien Tiken Dja a fait une vidéo, ou bien il a fait un enregistrement. En tout cas, c'est de ça que je parle dans cette chanson. J'ai dit, je suis devenu cette galette-là, devant grillé, derrière grillé.
Alors vous avez chanté Tiken Dja Fakoli en 2014, quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Le réveil, il est toujours pas là.
Le réveil n'est pas là, mais on ne désespère pas. Parce que quand je vois la France il y a un siècle, je pense qu'il y a des choses qui étaient bizarres, qui sont rentrées dans l'ordre après. Moi, je vois des images de réfugiés français sur les routes, après les guerres, etc. Et quand je vois des réfugiés centrafricains aujourd'hui ou congolais, ça me fait penser à ça. Et je me dis, c'est un processus. On arrive doucement. Ça fait seulement 57 ans que nos pays ont été libérés, en tout cas, de l'esclavage et de la colonisation. Donc, nous sommes des jeunes nations. Et donc, nous sommes dans ce processus. Nous passerons forcément par des difficultés que les pays dits aujourd'hui, pays stables, pays démocratiques ou pays développés, sont passés. Et donc, je pense que l'Afrique est en train de se réveiller doucement. Et les réseaux sociaux sont venus renforcer le combat de ceux qui s'étaient fixés comme objectif de réveiller le continent africain.
Et pourtant, on pourrait se dire, en regardant votre album, en feuilletant le livret qui l'accompagne, que vous n'êtes pas si optimiste que ça. Par exemple, là, juste à côté des paroles de la chanson « Dieu nous attend », vous écrivez ceci. « Les autres peuples font de grandes inventions, alors que nous, Africains, sommes encore dans les commérages, les grands discours et l'oisiveté. Les autres peuples sont au travail, font des recherches et des inventions, pendant que nous sommes encore dans la méchanceté, l'incivisme, la sorcellerie et les ragots. »
Oui, je pense que le fait de continuer à éveiller les consciences, de continuer à critiquer nos comportements, ne nous empêche pas d'être optimistes. l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Je pense que nous sommes les seuls à ne pas connaître l'importance du continent aujourd'hui. Un continent où il y a l'été continu, où il y a des kilomètres de plages, un continent qui détient la plupart des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin de continuer le développement, ça c'est un continent d'avenir. Et donc nous essayons d'expliquer aux gens qu'on a des atouts et qu'il faut en profiter. Donc Dieu nous attend, j'ai dit Dieu attend les Africains qui se bougent et les Africains attendent Dieu. Et moi, je pense pas que ce rendez-vous va avoir lieu, parce que chacun attend de son côté.
Chacun attend de son côté, c'est compliqué.
Oui. Voyez-vous, en Afrique, quand on dit tous les médias du monde entier disent que le carburant qui est vendu aux Africains est toxique, il y a aucune réaction. Il y a aucune réaction dans pratiquement aucun pays africain. Alors que s'il y a pas de réaction, les politiques vont pas se bouger. Donc, les Africains très souvent, ils disent oh, non, Dieu est grand, non, on va laisser à Dieu, non. Dieu, pour moi. Je suis croyant, musulman, mais j'ai dit Dieu ne soutient que les actions. Vous avez envie d'être agriculteur, Dieu, si vous lui demandez de vous aider, il faut qu'il vous voie en train d'apprendre ce métier d'agriculteur. Vous avez envie d'avoir la sécurité sociale, vous avez envie d'avoir ceci ou cela. Alors, il faut que Dieu vous voie en action, en train de faire des choses pour pousser les dirigeants à vous donner ces acquis-là. Et donc, c'est de ça que je parle dans « Dieu nous attend ».
Alors, vous venez d'employer, Tikenja Fakoli, le mot « acquis », le mot « apprendre » également. Où est-ce qu'il en est, votre projet « Un concert, une école » ? Combien d'écoles ont été construites ?
Nous sommes aujourd'hui à 6 écoles construites, 2 écoles en Côte d'Ivoire, une école au Burkina Faso, un collège au Mali, une école au Niger. Et nous venons de finir la construction de l'école, d'inaugurer d'ailleurs la construction de la dernière école en Guinée-Conakry. Et notre objectif pour les prochaines années, je pense l'année prochaine, c'est le Libéria ou la Sierra Leone. Moi, j'ai envie de construire des écoles dans tous les pays africains pour faire passer le message très important de l'éducation. Je pense que c'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. Aujourd'hui, les populations africaines sont manipulées par les politiciens véreux, sont manipulées par le système occidental, parce que tous ceux-là savent que la majorité des Africains ne savent ni lire ni écrire, donc ils peuvent faire les magouilles sans qu'il y ait des réactions, sans qu'il y ait des calculs. Et donc, voilà, moi, mon objectif, en tout cas, par rapport à la construction de ces écoles, c'est pour attirer l'attention vers l'éducation, vers le réveil. Je suis convaincu que si dans 50 ans, on a une grande majorité des Africains qui sont réveillés, les gens vont plus voter parce que le candidat vient de leur village, ils vont plus voter parce qu'on leur a donné un t-shirt, ils vont plus voter pour un billet de 1000 francs CFA. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui fait que on se retrouve avec des gens au pouvoir qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien promis et qui se sont retrouvés là et qui ne font rien. Et puis bon, on est étonné, alors que c'est nous-mêmes qui sommes allés mettre les bulletins dans les urnes pour les amener là où ils sont.
Et pour que l'Afrique se réveille, elle a effectivement besoin d'éducation, besoin de cerveau, besoin de tous ses talents. Et c'est notamment à eux que vous vous adressez dans « Pourquoi nous fuyons ?» qui précède sur l'album deux autres titres, « Non, non, non » et « Libya », des titres qui donc se succèdent, qui sont vraiment dans cet ordre-là. Donc voici quelques notes. Alors ce qui est frappant, c'est que quand on écoute attentivement les textes, le début des trois morceaux se suivent et s'enchaînent parfaitement.
Pourquoi nous fuyons ? Qui va mener la lutte à notre place ? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? C'est le grand jour, t'as fait le tour et t'as dit au revoir à la maman. Tu fais le sou, tu fuis l'amour. Tu cherches la liberté et les dollars. Tu finiras derrière des bars. La vérité pour les peaux noires. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? L'histoire n'est pas si belle que tu crois. L'eau froide t'attend, la pluie t'attend. Ni famille, ni ami, ni personne avec toi. La rue t'attend, la peur t'attend. La fraternité n'est pas celle que tu crois. Le racisme t'attend, la misère t'attend. Pourquoi nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place? Pourquoi vous fuyez, nous fuyons? Qui va mener la lutte à notre place?
Non, 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 on ne veut plus ça là. Non, 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 on ne veut plus ça là.
Des Des Africains arrêtés à toutes les frontières. Des migrants affrétés par des trafiquants. Des Africains qui triment pour des trafiquants. Des frégates qui affrètent le sang des Africains. Des Africains qui se tuent tant pour trois fois rien. Des Africains sacrifiés pour des biens verts.
Vous m'en direz des nouvelles sur
RFI.
Si la manie, la route n'est pas bonne. Moi, la maloya veillé.
Voilà, la mise en garde de Ticket Jeff Fakoly est très claire. Hein. Ne fuyez pas, ne partez pas sur les routes de l'immigration, la souffrance est au bout du chemin et même en cours de route. Hein. Et dans cette dernière chanson qui s'intitule Libya, vous évoquez l'esclavage moderne tel qu'on l'a découvert, redécouvert ou fait semblant de redécouvrir il y a pas si longtemps. Pourquoi est-ce que vous teniez justement à travers ces trois titres-là à insister autant?
Ben, j'essaie de tirer la sonnette de l'alarme, voilà, dire aux candidats au départ que oui, ils ont le droit de partir, mais qui va venir mener les luttes en notre place? Si nos ancêtres s'étaient barrés, je pense qu'on allait être encore esclavagisés. Si nos parents, sous la colonisation, qui n'avaient pas forcément besoin de visa, qui avaient juste besoin d'un billet d'avion pour venir en Europe, ils auraient pu tous venir ici, mais ils sont restés sur le continent, ils se sont battus et nous avons eu l'indépendance. Et donc si nous, jeunes Africains, on a envie que nos enfants se retrouvent dans une autre Afrique, meilleure que celle que nous on connaît et surtout meilleure que celle dont on se plaint, alors nous avons ce devoir-là de nous attaquer aux problèmes, de nous attaquer aux différents problèmes, la mauvaise gouvernance, la corruption, en tout cas tous les maux qui minent ce continent et qui font que ce continent n'avance pas. Et donc, je sais à ma manière de décourager un ou deux, même si je sais que c'est compliqué, mais je pense que c'est important que les gens découvrent, enfin, qu'on parle à ces jeunes-là. Hein, parce que ce continent, on en parlait tout à l'heure, c'est le continent de l'avenir. C'est comme votre papa vous laisse un terrain qui est fertile et où tout est possible. Et puis, bon, voilà, vous abandonnez. Et parce que il y a des cailloux ici et là. Donc, il faut simplement rester sur le terrain, trouver des solutions pour enlever ces cailloux-là. Et puis, faire honneur à votre papa. Et donc, c'est un peu ce message que je fais passer à travers, l'un de ces trois morceaux. Il y a Libya.
Alors justement, Libya, voilà, pardon Libya. De vous couper, Diken, mais je voudrais qu'on écoute un témoignage, uh-huh. Celui d'Alpha Kaba, qui okay. est un Guinéen, qui a publié un livre intitulé « Esclaves des milices, voyage au bout de l'enfer libyen », qui est paru en France chez Fayard il y a quelques semaines, et qui raconte sa propre expérience en Libye. Il était donc il y a quelques semaines au micro RFI de Clémentine Pavlovski.
En Libye, on a été tout d'abord revendu. Le passeur nous a revendu à des milices. Ces milices nous ont envoyés dans des squats, dans des maisonnettes abandonnées en périphérie des villes, au nombre de 30 à 50 personnes où la vie était totalement impossible. On mangeait pas, on buvait pas pendant près de 48 heures. Et de là, ils viennent nous chercher encore dans des pick-up pour nous envoyer dans d'autres hameaux, dans d'autres, si vous voulez, squats, où ils font le marché de l'esclavage. Nous, on a été revendus lors d'un marché, d'une cérémonie qu'ils ont organisée entre eux là-bas. Ils sont venus nous revendre comme des bêtes sauvages à d'autres maîtres qui nous prennent après, nous envoient dans des plantations, des dattes, dans des chantiers. Il y avait parmi nous des ouvriers, des footballeurs, des charpentiers, donc des hommes de métier. Ils profitaient de ces hommes pour construire des maisons. Et nous, par exemple, moi, en tant que sans métier d'ouvrier, moi, j'étais en quelque sorte, je faisais du manœuvre, si vous voulez. Chaque jour, tu vois autre chose. Chaque jour, tu comprends que tu es devenu esclave. À partir du moment où tes droits sont opprimés, tes droits ne sont pas respectés, tu n'es pas libre de revendiquer. Les armes sont braquées sur toi 24 heures sur 24. On tire sur des amis avec lesquels tu es venu. On vous abat comme des poulets. C'est en quelque sorte tout ce qui t'envoie vers la vie de l'esclavage, quoi. Aucune possibilité de révolte, parce que la meilleure manière de rester en vie, je vous dis, c'est d'obtempérer, d'obéir aux ordres. parce qu'on était sous des ordres des jeunes qui ont des armes pointées sur nous 24 heures sur 24. J'ai eu pas mal de tortures, frappes avec l'accroche des armes. C'est difficile à expliquer aujourd'hui, il faut y être là pour croire, mais honnêtement j'ai eu toutes sortes de tortures, excepté la mort, que bon nombre d'entre nous ont trouvé la mort là-bas, et on mange pas. Vraiment, c'est invivable, c'est indescriptible, quoi.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça, Tiken Jafakoli?
Ben, un choc, et c'est d'ailleurs de ça que je parle dans Libya. J'ai dit, dans Libya, comme c'est un morceau que je chante à Malinké, j'ai dit, voilà, c'est effrayant ce qui se passe. J'ai dit, la route n'est pas bonne. Et j'ai dit, si le prix à payer pour aller en Europe, c'est d'aller finalement humilier sa race, parce que aller nous faire retomber dans l'esclavage, c'est humilier toute l'Afrique, c'est humilier tous les Noirs. J'ai dit, si c'est ça le prix à payer, je demande aux jeunes de réfléchir plusieurs fois, parce qu'on a été tous choqués par ces images-là. Par ces images d'esclavage en Libye, je pense que c'est quelque chose de très très grave. Au moment où certains de nos compatriotes sont des grandes lumières sur les terrains de foot, et donc grâce à leur talent, ont contribué à mettre l'image de l'homme noir à un niveau. Au moment où Barack Obama franchit les portes de la Maison Blanche dans un pays qui a esclavagisé les Noirs, quand des frères, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, parce qu'ils veulent la liberté, parce qu'ils veulent, je veux dire, le dollar, vont nous humilier comme ça, je pense que voilà, ça vaut pas le coup. Et donc c'est de ça que je parle dans Libya.
Alors on a entendu également quelques notes de Nonono dans une autre chanson qui s'appelle Ça vole, et dans Nonono vous parlez du pillage des richesses du continent africain, vous parlez de la corruption, vous parlez des trafics et notamment des trafics d'armes. Qui est coupable pour vous, Tiken Jafakoli? Les Africains, les néocolonialistes européens ou chinois qui investissent aujourd'hui massivement en Afrique, est-ce que vous les renvoyez dos à dos? Est-ce que c'est tous coupables?
Je pense qu'ils sont tous coupables. Ils sont tous coupables, le système occidental, les Chinois, les trafiquants, ils sont tous. Je pense aussi qu'il y a une complicité en Afrique. Je pense que pour que quelqu'un vienne comme ça prendre des choses chez une personne, il faut que la personne soit quand même consentante. Et donc c'est un peu voilà, je dénonce tout ça, vous savez.
Mais est-ce que les Africains ont les moyens aujourd'hui de dire aux Occidentaux, de dire aux Chinois, de dire aux Saoudiens par exemple, ah ben non, on n'a pas besoin de vous?
Je pense que ça dépend. Je pense qu'au moins, si des luttes communes sont menées, on peut renforcer, on peut donner peut-être. On peut se faire respecter sur le plan international. Hein. Il faut que déjà que on se rende compte que si on se met ensemble pour dénoncer tout ça, puis avoir un changement. Je prends même le cas simple des visas. Le jour qu'il y aura des manifestations dans tous les pays africains devant les ambassades de France, alors si l'ambassade de France a l'habitude de donner 200 visas par jour, vous verrez que la semaine suivante, il y aura 400 visas. Et donc, il n'y a que la lutte qui libère. Et Thomas Sankara l'a dit. Et donc, je pense que tout est possible s'il y a une prise de conscience et un combat commun. Si on se met ensemble, on peut gagner tous les combats. Nous sommes divisés dans nos pays. Donc, ça fait que on est dans des batailles pour des hommes politiques, mais pas pour nos pays, pas pour l'intérêt général. Et je pense que c'est l'un des gros problèmes. Et je pense que les solutions peuvent être trouvées à tous ces trucs-là. Si nous menons des combats communs, si on se bat pour l'intérêt général.
Et Stop CFA, c'est une partie de la solution?
Je pense que Stop CFA, c'est une partie de la solution parce que le fait déjà que cette monnaie soit fabriquée en France, c'est un problème. Le fait que cette monnaie soit contrôlée par la France, c'est un problème. Et il y a un fait qui est très très grave déjà, c'est le nom du franc CFA. Communauté française d'Afrique, nous ne sommes plus une communauté française d'Afrique. Et donc, moi je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est de changer le nom de cette monnaie et de continuer la bataille pour que la France, l'ancien colon, ne soit plus le maître de cette monnaie. Et je pense qu'on a des spécialistes aujourd'hui en Afrique qui sont capables de monter des choses qui peuvent nous permettre de nous débarrasser de cette monnaie-là. Je pense que si toute l'Afrique francophone consomme la même monnaie, je pense que ça peut forcément représenter un pouvoir. même si on fabrique pas des voitures, même si on n'a pas encore les unités de transformation de nos matières premières, le fait que toute l'Afrique francophone, par exemple, va utiliser la même monnaie, je pense que ça va forcément peser dans la balance.
Et c'est sur les notes de Kojougou qu'on va se quitter. Tiken Jah Fakoly, l'album Le Monde est Chaud est disponible chez Barclay. Et dans la version africaine, je crois quelques titres en plus.
Il y aura 3 titres en plus, mais qui va sortir au mois d'août. Mais l'album sera disponible en Afrique le même jour que la France, avec les 12 titres qui sortent ici. Et puis au mois d'août, lorsque je vais finir la grande tournée internationale, que je vais venir pour me consacrer à la promo locale. Et en ce moment, on va faire découvrir les 3 titres qui manquent.
Eh bien, rendez-vous est pris. Et cette tournée, elle commence dès ce vendredi avec l'Allemagne. Puis retour en France le 24 mai à Wittisheim en Alsace, le 26 près de Paris à Vitry-sur-Seine, le 29 au Moisson Rock de Juvigny dans la Marne, le 31 en Bretagne aux Petites Folies de Lampol-Plouarzel, et ensuite en juin également en Lorraine, à Évreux, en Bourgogne, le 30 juin à Bruxelles, et puis à nouveau la France avec plusieurs dates en juillet, en août, en octobre et en novembre, et notamment les 14 et 15 novembre à l'Élysée-Montmartre à Paris, d'autres dates également en décembre. Bref, tous les fans seront donc servis. Merci encore.
Merci.
Allez, une pause, le journal, et à demain avec le comédien Bruno Salomon qui publie son premier roman Les Misophones. C'est aux éditions du Cherche Midi et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.